Alors, je suis comme d'habitude heureux de pouvoir vous apporter un message. Et chaque fois qu'on apporte un message, on se demande ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau. Donc, j'ai eu il y a quelques semaines un passage qui m'est venu. C'est le passage qui concerne un paralytique qui était posé devant une piscine qu'on connaît tous, et qui a rencontré Jésus. Après plusieurs années d'attente. Donc il s'agit de Jean 5, 1, 15, qu'on va lire ensemble. Alors Jean 5, 1, 15. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Alors déjà, c'est mystérieux, attendre le mouvement de l'eau, donc on va lire la suite. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. C'est surprenant. C'est quand même surprenant cette affaire. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agité, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Donc on va s'arrêter là et on va laisser afficher ces versets. Alors, le titre de mon message, c'est Quel est le temps de l'exaucement? Alors, on a tous dans nos vies traversé, ou ça peut être vécu là, à l'instant, des situations de blocage. On se demande, mais ma vie n'avance pas. La maladie, les affaires de cœur, le travail, les problèmes avec le patron, les problèmes avec la vie en général, la société, des problèmes même d'avancement dans sa vie spirituelle, de progrès spirituel. Il y a des périodes de blocage comme ça. Quel est le temps de l'exaucement? Ça fait longtemps qu'on demande à Dieu de nous aider. Ça fait longtemps qu'on demande à rencontrer Dieu. Ça fait longtemps qu'on attend sa visite pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse, quelque chose qui se débloque. Donc on connaît les situations de blocage. Tout le monde connaît ça. Et ce sujet-là, sur quel est le temps de l'exaucement, donc, m'a amené à m'interroger sur comment aborder cela. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut finalement se positionner, comment faire pour bien vivre le blocage? Parce que ça arrive. On n'a pas tout pouvoir pour faire avancer ces situations. Donc, il faut bien appréhender, aborder ces moments-là de la bonne façon. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu vous en parler aujourd'hui. Donc attendre un exaucement qui ne vient pas, une demande, une prière qui ne vient pas, donc ça peut occasionner des interrogations en tant que chrétien, et pas forcément en tant que chrétien. Toute personne dans cette situation est en droit de se poser des questions, des questionnements, ça peut amener à la frustration, cela peut conduire au découragement, à l'incompréhension. Seigneur, mais je ne comprends pas. C'est pourtant évident, j'ai besoin de ton aide, mais que fais-tu? Et cela peut conduire même à l'abandon de la foi pour certains. Certains qui sont poussés aux extrémités se disent, ben, Dieu m'a abandonné, c'est pas possible, j'abandonne. Et ils quittent donc leur engagement. Vous voyez, ça peut être grave. Être dans une situation de blocage, quand la réponse tarde, ça peut être grave. Donc, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire. Donc, commençons par nous interroger sur qui était ce paralytique. Qui était-il? Bon, on nous dit que ça faisait 38 ans qu'il était là. Était-il, je dirais, pauvre? Était-il riche? On pourrait supposer qu'il était plutôt pauvre, puisqu'il dit qu'il n'avait personne pour le porter. Peut-être qu'il y avait une hiérarchie là autour de cette piscine, et que même parmi les pauvres, les paralytiques, les boiteux, peut-être certains avaient des familles riches qui qui avait des porteurs, ouais, on sait qu'on ne connaît pas cette situation. Donc déjà, on se dit, même autour de cette piscine, il pouvait y avoir des situations d'inégalité entre les boiteux, les paralytiques, les aveugles. Tout le monde n'était pas à la même enseigne et tout le monde n'arrivait pas à plonger dans la piscine de la même façon. Et c'est la même chose pour nous. Il y a des inégalités entre nous dans les situations qu'on vit. Des fois, on admire des chrétiens, on se dit, ah ben lui, tout lui réussit, elle, c'est formidable, et moi? Et moi? Oui, c'est la même chose. Hein. Et pourtant, la grâce de Dieu, et pourtant, l'ange descendait de temps en temps. Donc, il y avait quelque chose de miraculeux. On peut se demander pourquoi est-ce que il persévérait, il avait persévéré 38 ans alors qu'il savait qu'il n'avait personne pour l'aider. C'est quand même incroyable ça. Rester 38 ans en sachant qu'il n'y avait personne pour l'aider, ça fait réfléchir. Hein. Quel était l'état de son cœur? Quel était l'état de sa foi après tant d'années à attendre un exaucement qui, objectivement, ne devait pas venir? L'ange venait, mais lui savait qu'il ne pouvait pas atteindre. Mais il était là. Et vous, est-ce que ça vous arrive d'être dans des situations de blocage comme celle-ci, de savoir, enfin, de voir que vous n'avez pas de solution, mais d'insister, de persister et d'y rester, comme cela? Donc, ce que je vais vous dire aujourd'hui par rapport à ce passage, c'est une approche, c'est un angle d'approche qui est, je dirais, volontairement choisi. On pourrait très bien aborder ce qui se passe là d'une autre façon. Donc, je le demande, je le fais avec beaucoup d'humilité, dans le sens où je ne voudrais pas que vous imaginiez que lorsque je vais poursuivre, je juge. Il n'y a pas de jugement contre ce paralytique. Donc, soyez miséricordieux envers moi. Je ne veux pas juger ce paralytique. Il n'y a pas de critique, mais je m'interroge. On pourrait très bien louer son attitude. On pourrait dire, bravo, 38 ans, franchement, chapeau. Quelle foi, on pourrait aussi aborder comme ça. Effectivement, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Et je pourrais faire une prédication sur la foi, sur la persévérance, etc. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux aborder autrement. Si je vous choque, tant pis. Donc, quel était le temps de l'exaucement pour ce paralytique? On peut se poser la question. Et là, moi, je me demande, certes, il y avait une piscine. Certes, l'ange descendait. Mais pourquoi est-ce que l'ange ne bénissait qu'une fois? Pourquoi la piscine n'était pas une piscine à bénédiction automatique? Pourquoi ce n'était que le premier qui tombait dedans qui avait la bénédiction et que ça s'arrêtait? Ah, ça doit faire réfléchir sur les intentions de Dieu, ça. Ouais. Donc, pourquoi les règles n'étaient pas autres? Pourquoi il n'y avait pas d'autres règles par rapport à ces bénédictions-là? Vous voyez? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé à ce paralytique de rester 38 ans? Dieu lui avait-il demandé ceci? Moi, je ne pense pas. A-t-il eu raison de consacrer sa vie, d'inféoder sa vie, c'est un terme très fort, d'inféoder toute sa vie à attendre la guérison qu'il cherchait? Il avait raison de faire ça. A-t-il eu raison d'inféoder toute sa vie à cet objectif-là, la guérison? Ne pouvait-il pas envisager autre chose pour sa vie? N'y avait-il pas d'autres voies possibles? N'y avait-il pas d'autres possibilités de vivre autre chose avec d'autres personnes ailleurs, autrement? On peut se poser la question. Certainement que d'autres personnes avaient fait d'autres choix. Parce que tous les paralytiques de la Judée, de la Samarie, de Jérusalem ne se trouvaient pas là. Pourtant, il y avait bien une piscine. Donc, il semblerait que des paralytiques, par ailleurs, avaient choisi une autre voie. Donc, finalement, on peut aussi se dire, pour aller plus loin, est-ce que le fait d'insister parfois à rester sur un point donné, la recherche d'un exaucement, est-ce que ce n'est pas une façon un peu capricieuse? Je vous avais dit que j'allais vous choquer. d'essayer d'obliger Dieu de nous exaucer, d'imposer sa propre volonté à Dieu sur un point sur lequel on a fixé et bloqué. Alors vous allez me dire, David, je ne suis pas paralytique, hein. Tu n'as rien à dire. Ok, mais peut-être que je le serai un jour, on verra bien. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce que je ferai si je le suis. Tu n'es pas paralytique, David, c'est vrai. Donc ça demande de la, je vous ai dit, ça demande de la miséricorde et de la compassion de parler de cet homme. Bien entendu, on pourrait comprendre sa démarche, mais on peut aussi s'interroger. Donc finalement, on peut aussi se dire, mais est-ce que ce lieu de bénédiction n'est-il pas devenu un lieu d'amertume? Parce que passer 38 ans à attendre, est-ce que l'état du cœur, est-ce que la foi, l'état du cœur de cet homme dans sa relation à Dieu, est-ce qu'elle n'avait pas dérivé? Vous voyez que, attention, l'exaucement qu'on attend peut devenir un piège parfois, si on fixe et on ne tourne sa vie que vers cet exaucement-là. Notre orientation, c'est celle qui concerne l'exaucement. On peut se dire finalement, Dieu a toujours existé. Nous connaissons Jésus, il est venu nous voir il y a 2000 ans, et puis il rentre dans nos vies aujourd'hui. Donc on a une relation avec Jésus, avec Dieu, le Père, via Jésus-Christ. Mais à l'époque aussi, les gens priaient Dieu, ils connaissaient l'Éternel, il y avait une relation. Il y avait une façon d'approcher Dieu. Et donc ce paralytique avait la foi, certainement, enfin je m'imagine. Est-ce que Dieu n'avait pas d'autre plan pour lui? Est-ce que Dieu ne voulait pas, certainement, n'avait pas l'intention de lui accorder d'autres bénédictions que celles que lui cherchait? Combien de bénédictions Dieu a-t-il pour nous? Est-ce qu'il en a une seule, ou est-ce qu'il en a d'autres? Donc, la question c'est, quel est l'exaucement que Dieu voulait lui accorder à lui? Dieu voulait lui accorder. Lui recherchait un exaucement, mais quel était l'exaucement que recherchait Dieu pour ce paralytique? Peut-être qu'il est passé à côté. Peut-être qu'il était tellement sourd, aveugle, obsédé par sa souffrance, qu'il ne pouvait plus entendre quoi que ce soit, ni voir quoi que ce soit. Vous voyez, il y a une cécité parfois. Une cécité, on ne voit plus. Parce qu'on est obsédé par une seule chose. Alors, j'aimerais maintenant vous dire quel est le sens, pour conclure cette première partie, quel est le sens qu'on accorde à l'exaucement en tant que chrétien? Quel est le sens qu'on va donner à l'exaucement? C'est quoi pour nous l'exaucement? Est-ce que c'est une fin en soi? Je vous laisse réfléchir à ça. Vous, est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous attendez de l'exaucement? Vous attendez plus de bonheur? Vous pensez que ça va vous rendre plus heureux? Peut-être, peut-être pas. Qui sait? Il faut voir, d'ailleurs, il faut l'expérimenter. Alors, passons à la suite. Là, nous nous sommes fixés sur l'avant, c'est-à-dire il y a la piscine, il y a des malades, des boiteux, des aveugles qui attendent un exaucement, qui attendent le miracle. Un ange passe, et quand il passe, certains sont... celui qui est au contact du passage de l'ange était guéri, et les autres sont frustrés, et sont mis de côté, et sont condamnés à attendre peut-être plusieurs années. Passons à la suite. Jésus passe maintenant. Ce n'est plus un ange qui passe. C'est Jésus qui passe. Jésus, ce n'est pas un ange. C'est le Seigneur, c'est le Sauveur. C'est l'exaucement avec un grand E. Ce n'est plus quelqu'un qui donne l'exaucement, Jésus. C'est lui l'exaucement. Et c'est lui qui passe. L'exaucement passe. Maintenant, je ne vais plus dire Jésus. Je veux dire, l'exaucement passe, la personne. Et on va se demander si la situation change. Alors, elle change pour qui? Qui veut me répondre? Il y a un miracle, là. Le texte nous dit qu'il y a un miracle. Il y a un miracle pour qui? Répondez-moi. Pour qui il y a un miracle? Pour le. Pour le, avec un singulier, chers amis. Et les autres, vous y avez pensé? Vous avez pensé aux autres qui attendaient, hein? L'exaucement passe, mais dans les faits, c'est comme lorsque l'ange passait de temps en temps. Une personne. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion et comme conséquence? C'est quand même injuste. C'est cruel. Une personne. Alors vous allez me dire, mais David, quand on lit l'évangile par ailleurs, lorsqu'on apporte des paralytiques à Jésus, il les guérit tous. Oui, je suis d'accord. Si on lui avait apporté les paralytiques, si les paralytiques qui étaient là savaient que c'était Jésus, certainement qu'ils seraient allés vers lui. Mais là, ça ne se passe pas comme ça. C'est Jésus qui va vers le paralytique. Les autres ne savent peut-être pas qui il est. Mais Jésus ne fait pas le tour des paralytiques. Pourquoi donc ? Oui, non. Donc le miracle, un grand miracle a eu lieu, mais pour une personne. Est-ce à dire que Jésus ne s'intéressait pas aux autres? Est-ce à dire que Jésus n'avait pas compassion des autres? Je ne le crois pas, pas du tout. Alors quel est le temps de l'exaucement? Je répète, je me réinterroge sur le sujet. Quel est le temps de l'exaucement? Alors, les autres auraient pu dire, mais c'est injuste. Nous n'avons peut-être pas attendu 38 ans, mais nous sommes plus malades que lui. Parce qu'il n'y a pas que le temps, il y a l'intensité de la souffrance qui compte. Ça aussi, ça joue. Il n'y a pas que le temps. Après, quelqu'un aurait pu dire, oui, mais moi, je suis bientôt à la mort. C'est-à-dire que mes jours sont comptés, je le sais. Si je ne suis pas exaucé maintenant, je sais que j'en ai pour 6 mois. Vous voyez, chacun peut avoir un argument pour dire « c'est injuste ». Dans la première situation, l'ange passait, ça pouvait paraître injuste. Aux yeux des hommes, il semblerait que là, tout le monde ne soit pas servi de la même façon. Jésus passe, l'exaucement passe, et c'est la même chose. Une seule personne vit le miracle, rencontre le Christ, et sa vie change. Les autres pourraient se dire, et moi après tout. Vous voyez? Je vous demande, et vous? Et vous qui connaissez Jésus aujourd'hui? N'attendez-vous pas, vous aussi, quand il passe dans les rangs ici, et qu'une personne se lève, ah j'ai été guéri de l'épaule! Ah, le Seigneur a fait ça, il m'a guéri du cancer. Et vous, vous dites, mais moi, punaise, ça fait longtemps que je demande ça, 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 et ça fait 15 ans, 20 ans. Seigneur, tu m'as oublié, là. Vous voyez donc, entre l'ange, où une personne à la fois était guérie, entre Jésus, il y a 2000 ans, qui passe, une personne est guérie, et vous, ben, finalement, je me dis, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, Ça nous demande de la prudence. Ça nous demande à réfléchir. Ça doit nous amener à essayer de comprendre l'intelligence de Dieu, comprendre comment il agit avec nous. Et il y a forcément une raison, croyez-moi. Dieu n'est pas un bâtisseur de piscine à miracle automatique. Non. Parce que si c'était ça, la bénédiction, il y aurait plein de piscines. Et il y en aurait eu beaucoup. Mais évidemment, bien sûr, nous avons bien inventé l'eau potable. On ouvre, ça coule. Pourquoi est-ce que Dieu n'aurait pas inventé une piscine à miracle automatique? Tout le monde aurait été plus heureux, n'est-ce pas? La terre aurait été heureuse. Parce que j'aimerais vous dire une chose. La piscine, il n'était pas précisé qu'il fallait avoir la foi pour tomber dedans. Tout le monde pouvait venir. Païen, criminel, tout le monde, c'est pas précisé. La condition, c'est l'ange passe, l'eau frémit, tu tombes dedans, t'es guéri. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Alors déjà, j'aimerais quand même dire une chose. Entre tomber dans une eau, l'ange est passé, et être guéri, ok, c'est une chose. Mais rencontrer le Seigneur, l'exaucement, et être guéri, c'est quand même une autre chose. Attention, hein. Attention, ce n'est pas pareil du tout. Nous n'avons pas affaire à un faiseur de miracles quand nous rencontrons la vie de Jésus. Ce n'est pas un faiseur de miracles. Moi, je ne veux pas de faiseur de miracles. D'ailleurs, j'en veux pas. Si Jésus est un faiseur de miracles, je démissionne. Je renonce à ma foi. J'abandonne ma foi, je vous dis clairement. Si c'est lui, si c'est ça, son identité, je ne suis plus chrétien. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'un faiseur de miracles. Je veux rencontrer la personne qui incarne donc Dieu. Et ce n'est pas un faiseur de miracles. Je rejette absolument cette pensée, et je pense que vous aussi. Alors, j'aimerais me poser cette question maintenant. Est-ce que tous ceux qui étaient présents autour de la piscine et qui n'ont pas été abordés par Jésus, est-ce qu'ils étaient prêts à rencontrer l'exaucement, le sauveur, pas le faiseur du miracle? Est-ce qu'ils étaient prêts à rencontrer Jésus? Parce que ce n'est pas rien. Est-ce qu'ils étaient prêts à se repentir? Est-ce qu'ils auraient été prêts à se convertir? Convertir, c'est changer. C'est facile qu'un ange nous guérisse. Et quand tu rencontres Jésus et que tu veux sa guérison, il y a un prix à payer, attention. Est-ce qu'ils étaient tous prêts, ces paralytiques, à changer de voie? Croyez, on dit souvent, « Ah, le pauvre !» Vous croyez que les pauvres sont plus gentils que les riches? Vous croyez que les pauvres gens, ceux qui souffrent, ont un cœur meilleur que les riches? Ou que les gens en bonne santé? Pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a un cœur plus aimant, plus miséricordieux, plus patient. On peut être un monstre en étant paralytique. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il y a des monstres partout, des monstres rampants. Attention. Donc, rien à voir. Rencontrer Jésus, c'est aussi être prêt, accepter de se convertir, de changer. Étaient-ils tous prêts à renoncer à leur existence d'infirme? Jésus leur dit, veux-tu? Veux-tu? C'est une question surprenante. Veux-tu être guéri? C'est une question idiote, non? Tu vois bien que je suis paralytique, Seigneur. Tu vois bien que j'attends, tu le sais, et tu me poses la question. Eh oui, mais ce n'est pas une question anodine, désolé. Quand tu vas voir quelqu'un et tu lui dis, veux-tu que je te soigne et que tu guéris? La personne, pendant 38 ans, s'est plainte. Quand tu vas voir, tu n'es pas sûr qu'elle accepte. Tu n'es pas sûr du tout qu'elle accepte, parce qu'elle est attachée au statut de malade, hein, certains privilèges parfois, désolé de le dire, certaines habitudes, une certaine identité, ou, je vais encore vous choquer, ça pourrait être pour certains confortable. Alors je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie. Hein. Un chrétien avait une infirmité à la jambe. Mais il avait d'autres problèmes. Sachez que par rapport à ça, son infirmité à la jambe, il avait une pension d'invalidité. Quand on est venu vers lui et on lui a dit « on va prier pour toi pour que tu sois guéri », il a dit « attention, je veux être guéri pour tout sauf pour ma jambe. Pourquoi ? Ah mais parce que j'ai une pension. » Vous voyez ? Donc attention, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un souffre et qu'il rencontre Jésus qu'il va être prêt à renoncer à sa souffrance parce qu'on peut en tirer un intérêt, on peut en tirer une identité, on peut en tirer des plaintes de la part des autres, on peut, et on peut se nourrir de ça comme quelqu'un qui a soif, une soif qu'on ne peut pas étancher. Soif de plainte, soif de ci, soif de ça. Vous savez, le cœur est tortueux. Et c'est très facile, sous des apparences de sainteté, en fait, de pas du tout avancer avec le Seigneur. On est dans une situation de souffrance, mais on s'en nourrit. On peut s'en nourrir 38 ans. Vous voyez ? Alors, je savais que je n'allais pas vous faire plaisir avec cette prédication. Mais j'ai volontairement décidé d'axer mon regard là, de ce côté-là. Parce qu'on peut toujours caresser dans le sens du poil. Mais pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas facile à vivre. Donc, j'ai décidé de suivre mon penchant naturel. Prends ton lit et marche. J'aimerais vous dire une chose. Quand Jésus dit « prends ton lit et marche », il y a une vraie, il y a deux miracles. Le premier miracle, c'est Jésus qui dit « je te guéris, tes péchés sont pardonnés, lève-toi ». Et la personne se lève. Mais le deuxième miracle va durer très longtemps. C'est de marcher. Et là, ce n'est plus Jésus qui le fait. Désolé, c'est la personne qui doit marcher. Et si tu ne marches pas, si, quand bien même tu aurais eu la guérison, à quoi cela te sert-il? Donc, il y a un prix à payer. Si vous voulez être guéri, il y a un prix à payer. Et je peux m'interroger, de savoir si tous ceux qui étaient devant cette piscine, si Jésus était allé les voir, ils auraient été prêts à payer ce prix. Qu'en est-il de nous? Oui, on peut se poser la question ici, nous qui sommes là. Nous plaignons parfois, mais est-ce que nous sommes prêts à payer? Parce que des fois, il y a un combat à mener une fois qu'on est libre. Dès qu'on t'a enlevé tes chaînes, eh, maintenant tu es un homme libre, une famille, mais non, il y a d'autres combats. Et ça peut faire peur, ça peut terroriser. Donc, être prêt à vivre la vraie libération, la vraie liberté. C'est peut-être plus difficile que d'attendre simplement le passage d'un ange. C'est peut-être plus difficile de rencontrer Jésus, l'exaucement, le sauveur, celui qui te libère, que d'attendre simplement le passage d'un ange. Voyez ? Et puis, ce qu'on oublie, c'est que souvent la souffrance, ça peut être une occasion pour ceux qui la vivent, de détourner leur regard justement de leur souffrance. Parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement pesante qu'on sait qu'il faut vivre. Donc ça peut amener certaines personnes qui font ce choix à dépasser la souffrance, à détourner le regard et à avancer, à vivre. À vivre, vous voyez ? Et à changer d'état d'esprit par rapport à ça, à ne plus se fixer sur la souffrance, et sur l'attente de l'exaucement. Comment est-ce que nous faisons, voyez, par rapport à cette situation? On peut se poser toutes ces questions-là. Alors, j'ai terminé. On va passer à la conclusion, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à voir tous les points essentiels. Donc, déjà, moi, je pense que, pour être très simple, Dieu nous invite, plutôt que d'attendre, attendre, c'est être passif. Dieu est un Dieu d'action. Écoutez, l'esprit se mouvait sur les eaux. Vous vous rappelez de ça? Punaise. On ressemble à Dieu. L'esprit se mouvait sur les eaux. Eh bien, n'attendons pas. Plutôt que d'attendre, Dieu nous invite à marcher en attendant l'exaucement. Marchons. En attendant, marchons. Ce qu'on peut faire, faisons-le. Marchons simplement. Et donc là, j'aimerais qu'on passe le verset Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis par lui par le baptême, puisque voilà, nous avons rencontré Jésus, nous avons accepté par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions en nouveauté de vie. Donc, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, non pas à attendre. N'attendons rien du tout. Marchons en nouveauté de vie, en attendant. Ensuite, deuxième point, Jean 14, 6. Plutôt que de nous recroqueviller sur les promesses qu'on attend, plutôt que de nous fixer, c'est comme un arbre qui cache la forêt. Mettez-vous devant un arbre un jour. Il y a une forêt immense. Mettez-vous devant. Vous ne voyez pas l'étendue. C'est impossible de voir la beauté de l'avenir que vous avez. L'étendue, l'horizon que vous avez, vous ne pouvez plus le voir. Parce que vous êtes obsédé par la promesse ou l'exaucement. Donc Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Moi je vous invite et je m'invite moi-même, non pas à attendre la promesse, non pas à attendre l'exaucement, mais moi je veux attendre le chemin. Je me suis le chemin. La vérité et la vie, c'est cela que nous devons chercher. Marcher en cherchant ceci. Parce que quand vous cherchez ceci, vous cherchez l'exaucement. Vous exaucez Dieu. Vous faites que l'exaucement se produise. Parce que le vrai exaucement, c'est de rencontrer Jésus. Le vrai exaucement, de vrai, le dernier, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est cela. Donc, c'est l'exaucement. Troisième point, on passe à 2 Corinthiens 5, 17. Je vous invite à refuser de vous identifier à vos maladies, à vos infirmités, à vos problèmes, à vos situations de blocage. Rester 40 ans devant une piscine, ça veut dire qu'on a accepté cette identité. Voilà ce que je suis. Comment te définis-tu ? Je suis paralytique. Ah mais tu es plus que ça mon ami. Tu es plus que ça mon garçon, ma fille. Tu es plus que ça papa, maman. Tu es plus que ça tonton, tata. Tu es plus que ça mon fils, ma fille. Mon ami. Tu es plus que ça. Tu n'es pas qu'un paralytique. C'est pas ça ton identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Votre identité n'est pas dans vos problèmes. C'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Et c'est un mensonge, pas que du diable. C'est votre mensonge. C'est mon mensonge. Moi aussi, je mens. Vous savez, je suis un menteur, puisque je me mens à moi-même. Je ne veux pas être ce menteur-là. Je veux refuser de me mentir à moi-même et de mentir aux autres. Donc, nous sommes une nouvelle créature. Ce n'est pas notre identité d'être paralytique, d'être malade, d'être ci, d'être ça, d'être rejeté, d'être mal aimé. Tu n'es pas mal aimé. C'est faux. Tu es aimé, au contraire. Tu es bien aimé. Bien aimé. Nous pouvons aussi nous demander si nous souhaitons vraiment être exaucés. Parce que voyez-vous, quand quelqu'un vient te dire « Maintenant je t'exauce », tu recules. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment être exaucé? Ou tu t'es enlisé dans une façon de penser où tu te complais à attendre un soi-disant exaucement, mais que tu ne veux pas vraiment. Tu te complais, tu t'es trompé toi-même. C'est de l'arnaque. Tu t'es menti et tu mens aux autres. Veux-tu vraiment être exaucé? Veux-tu vraiment abandonner tes problèmes? Veux-tu vraiment la paix? Ou aimes-tu la bagarre? Aimes-tu la bagarre ou aimes-tu la paix? Vraiment. Est-ce que ça te manquerait de plus te bagarrer? Peut-être que ça te manquerait finalement. Veux-tu vraiment abandonner la guerre? C'est ça aussi, hein. Veux-tu vraiment? Donc, se demander si nous souhaitons vraiment être exaucés pour ça. Et si c'est le cas, qu'il y aura un prix à payer. Vous allez payer un prix cher, croyez-moi. Il n'y a aucune délivrance qui ne demande un prix cher à payer derrière. Ce n'est pas possible. Quand une femme met au monde un enfant, désolé, il y a un prix à payer. Vous le savez toutes ici. Il y a un prix à payer, hein. Payez le prix. Si maintenant nous sommes prêts à payer le prix, eh bien alors dans ce cas, il faut croire. Et là, il faut mettre sa foi en action. Oui, il faut croire qu'il y aura le temps pour l'exaucement dans ce cas. Si vous êtes clair avec vous-même, vous maintenez votre demande. Ce n'est pas une demande qui vous asservit, qui fait de vous un esclave, une esclave. Si c'est clair là-dessus, et vous êtes prêt à payer le prix, alors formulez, continuez à marcher dans la foi en attendant ce temps-là. Vous savez, Abraham a dû attendre avec Sarah et sa femme un certain nombre d'années pour avoir un exaucement, pour avoir le temps. Tout le monde n'est pas exaucé lorsqu'il le veut. Il y a des fois un temps pour rentrer dans le pays de Canaan. Il y a un temps. Beaucoup de gens ont attendu. Et donc, si on croit, il faut croire que l'exaucement va arriver, donc il faut mettre en œuvre sa foi, et s'y préparer. Et donc là, je demande à ce qu'on mette Matthieu 25, 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre, l'exaucement arrive. L'exaucement arrive un jour. L'époux arrive. Et Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez, soyez prêts. Parce que parfois, on attend 38 ans, et puis le jour où le Seigneur vient, on a perdu la foi. Parce qu'on s'est aigri. parce qu'on s'est révolté, parce qu'on ne sait plus pourquoi on est là finalement. Vous voyez, on est une coquille vide, il n'y a plus rien dedans. Donc veillez et priez dans ce cas-là. Et puis, le dernier point, Daniel 3, 17. Là encore, allons jusqu'au bout, soyons courageux. Des fois, je suis désolé de vous le dire, l'exaucement ne vient jamais. L'exaucement ne vient jamais pour moi, comme pour vous. Ça peut arriver. D'ailleurs, il n'y a pas que dans Daniel qu'on voit ça. Dans les lettres, les épîtres, les lettres de Paul, certains ont persévéré sans jamais voir. Mais ils ont persévéré. Donc là, il me plaît de lire ça. Voici notre Dieu que nous servons, c'est Daniel, hein, qui est en difficulté avec un roi. Un roi et ses conseillers qui en veulent à Daniel, veulent le tuer, le faire mourir. Et ses copains de Daniel, ils sont au nombre de trois. Et là, on leur annonce qu'ils vont être mis dans une sorte de fournaise, et ils disent, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Ils répondent ça. Mais c'est la deuxième partie qui est intéressante. Sinon, si ça ne se fait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as levée. Donc ça veut dire que la personne est déterminée, quoi qu'il arrive, qu'elle soit exaucée ou pas, à marcher avec Dieu, coûte que coûte. Coûte que coûte. Donc, c'est sur ça que j'aimerais vous laisser pour vous dire, mais il y a une détermination à être exaucée, certes, mais au-delà, il y a une détermination, quoi qu'il arrive, à suivre Dieu, à lui faire confiance, lui, parce que c'est lui votre exaucement. C'est lui votre exaucement définitif. Il n'y en aura pas d'autre. Cet exaucement n'arrivera pas demain. Il a déjà commencé. Cet exaucement est en cours pour vous tous et pour moi. Ça n'arrivera pas demain. L'exaucement est là. Il a été réalisé. Tout est accompli. Il n'y a pas d'autre exaucement. Tout est accompli en Jésus-Christ. C'est fait. Alors, je te remercie. Je me suis censuré par rapport à ce que tu dis, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu aller plus loin, mais effectivement, dans mon texte, j'avais eu pensé, parce que je ne voulais pas faire très long, puisque je pense que j'ai déjà dépassé, je vois que Bernard me regarde. Mais oui, bien entendu, j'avais eu envie de dire que Jésus, en choisissant cet homme, peut-être avait-il l'intention et l'arrière-pensée de se dire que, puisqu'il avait été là 38 ans, quel meilleur ambassadeur aurait-il pu trouver, puisque une fois guéri, il aurait propagé la bonne nouvelle. Il aurait fait le travail. Donc en fait, Jésus n'abandonne personne. Donc tu rejoins donc mon idée. Mais oui, j'aurais dû le dire. Tu me l'as fait dire, merci, et tu l'as dit toi-même, je te remercie. Mais bien sûr, parce qu'en fait, la grâce se propage. Et c'est là, et ça peut nous faire réfléchir aussi sur le fait que nous attendons toujours que ce soit Jésus en personne qui vienne d'un coup de baguette magique, qui fasse avancer nos vies, débloque nos vies. Mais comptons également sur les frères et sœurs qui sont investis de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont guidés aussi et qui sont des représentants de Jésus sur terre. Donc effectivement, si tel ou tel a reçu tel ou tel don, telle pensée pour toi, il peut comme Jésus venir et débloquer ta situation par la prière, par le conseil, que sais-je, mais et même nous-mêmes, et le Saint-Esprit en nous, à plus forte raison. Mais nous-mêmes, nous sommes les dépositaires du Saint-Esprit. Alors pourquoi attendrions-nous toujours qu'un ange passe? Vous voyez, donc, je termine là, donc je vous remercie, je vais prier pour vous et pour moi-même, parce que j'ai besoin aussi de progresser dans ce domaine, parce qu'il m'est arrivé d'être fixé parfois sur des choses, ne pas grandir, et je ne veux plus le vivre. On va prier pour que le Seigneur nous aide à nous saisir de ces éléments-là. Voilà. Eh bien, Seigneur, je te rends grâce parce que nous avons pu partager ce moment tous ensemble, fraternellement. Je suis heureux d'être auprès de mes frères et sœurs et faire comme tu nous as dit, de nous bénir nous-mêmes, les uns les autres. Cette pensée, ce message que j'ai présenté à mes frères et sœurs, ben, je voudrais qu'il soit inscrit dans leur cœur. Je voudrais que ça les aide à avancer, à te suivre, marcher avec toi, joyeusement, à découvrir aussi l'exaucement par une attente joyeuse dans la foi. Mais je voudrais aussi qu'ils apprennent à conquérir par ailleurs, à grandir par ailleurs, à eux aussi bénir plutôt que d'attendre d'être bénis, à devenir de vrais fils et de vraies filles dans ta maison, Seigneur. Voilà le vœu que je formule pour vous, Seigneur, que nous puissions dans notre cœur nous demander si nous voulons rester autour de cette piscine. Seigneur, nous ne voulons pas rester devant cette piscine, et surtout pas 38 ans. Nous voulons te rencontrer et nous voulons nous laisser transformer par toi. Et nous acceptons d'en payer le prix. Seigneur, je te remercie de nous aider tous, grands, petits, anciens, jeunes, dans la foi, à progresser dans ce domaine.